Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous, votez, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les...
les 98 de la bande FM, faut le savoir, j'espère que vous le savez, toute personne confondue, vous faire nier.
En Ile-de-France, jusqu'à 21h sur IDFM et en simultané sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios le dimanche à 16h sur...
Préchance Radio.
À 20h sur les Muses de Paris, à 21h sur...
S-Radio, Message Radio.
Non, Radio MS.
Radio MS, bon j'improvise un petit peu.
Le lundi à 19h sur Fréquence Magique, à 22h sur Fréquence Zik. Le mardi à 20h sur...
Enjoy Radio.
NG Radio.
NG Radio.
À 21h sur Radio MS, le jeudi à 16h sur Radio Vintage, à 21h sur Fréquence Tempo, sur Radio Balane, sur Gimme Radio et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.fr.
Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties, histoire, coup de cœur, jeux vidéo doivent coller le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons d'élections présidentielles américaines. Petit Manu résumera les grandes étapes d'une élection présidentielle aux États-Unis.
Oui, mon cher Didier, et là, je peux vous dire qu'il y a un grand dossier, il y a beaucoup de choses à dire, faut que je sois à la hauteur. Et là, je le dirai avec le plus grand plaisir, monsieur et dame, toute personne confondue, mon cher Didier.
Kevin, notre chroniqueur musical, nous proposera son quiz sur les présidents américains.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Tous les 4 ans, lorsqu'un président est élu ou réélu, se déroule bien sûr la traditionnelle cérémonie d'investiture. Et donc, plusieurs artistes sont venus chanter, nous allons les écouter.
PA aussi nous testera avec un quiz sur les présidents américains.
Hello.
Bonsoir.
Salut Didier, salut tout le monde. Bah oui, ce soir on va tester votre culture générale pour savoir qui a été le président démissionnaire, qui a été élu pour 4 mandats et à votre avis qui est le plus vieux. Réponse tout à l'heure dans le petit quiz.
Ronan, notre chroniqueur politique, décortiquera l'avenir du trumpisme.
Eh oui Didier, bonjour à toutes et à tous. Le trumpisme, un mouvement violent de l'aile droite conservatrice à l'extrême droite qui va survivre après la passation de pouvoir.
Tu nous parleras aussi cinéma ?
Eh bien oui, pour la chronique cinéma, on va parler des Marches du pouvoir de George Clooney.
1619 ou 1776, l'identité américaine en débat, c'est la chronique culture de Vincent. Et Elodie nous proposera aussi ses sorties. Quant à moi, j'essaierai de vous faire deviner des news incroyables mais vraies dans les...
Zafolites.
Et l'émission est réalisée par Philippe.
Philippe.
Allez, avant de rentrer dans le thème de cette émission, passons en revue les histoires incroyables mais vraies de la semaine.
Les questions que personne ne se pose.
Qu'avait cet homme de particulier dans sa veine?
Des excréments.
Quelque chose de sexuel?
Non.
Qui vous les expose?
De la merde.
Non.
Décidément.
De l'urine.
Non.
On commence aux États-Unis où un étudiant a rendu 40 ans après quelque chose qu'il avait volé. De quoi s'agit-il?
Son bac.
Non. Un livre.
Non.
De l'argent.
Non, Kevin, c'est plus lourd.
Un dictionnaire.
Non, c'est un peu plus lourd. Et c'est pas avec la même matière.
Un ordinateur.
Un cartable.
Non. C'est pas quelque chose
table,
de contemporain.
Une table. Une table.
Non.
Une chaise.
Un trésor.
Non, c'est pas en bois.
Un truc de l'antiquité, genre un glaive.
Ah, une épée.
Une épée.
Ouais. Bravo. Alors, mais elle se trouvait où cette épée? C'est une
dans la
une
salle
épée
de classe.
Bronze. Non.
Dans
chez le proviseur.
Une sorte d'entrepôt, genre Indiana Jones, tu vois.
Un musée.
Non. C'était à l'extérieur.
Ah, bah à l'extérieur de l'établissement.
Ah,
enfin,
c'est genre une statue.
Et
une statue.
Exactement, Ronan.
En pierre.
C'était l'épée d'une statue en bronze, donc, qui appartenait à la statue d'un général de la guerre d'indépendance qui s'appelle William Shepard, grand ami de George Washington. Et il a été miné par les remords, en fait, et pendant 40 ans. Et finalement, il lui a fallu du temps. Hein, il vient de rendre cette épée.
Voilà. Comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Hein.
Il faisait un grand ménage chez lui, il l'a retrouvé, il s'est dit bon, je peux
Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Ah, bah oui, c'est moi qui l'ai volé.
C'est quoi ça? Ah, la tête de la statue de la liberté. Ah, je vais peut-être la rendre. Ça,
ça fait 40 ans quand même.
Allez, on continue ailleurs. Je vous dis pas où, puisque c'est le lieu qu'il faudra deviner. Les cendres de James Doohan, qui jouait Star Trek, est mort il y a 12 ans donc. Bah, ces cendres ont été retrouvées. Mais où? Elles ont plutôt été dévoilées. L'endroit a été dévoilé.
Aux États-Unis?
Non.
En Europe ?
Non.
En Asie ?
Non.
En Océanie ?
Dans
en
l'espace ?
Oui, dans l'espace, mais où ?
Sur Mars ?
Non. Sur la Lune ?
Non.
Sur Jupiter ?
Sur la station internationale ?
Oui, à bord de la station spatiale internationale, elles y étaient cachées
mais
clandestinement.
Non. Ah ouais ?
Ouais, c'est l'un des premiers voyageurs privés de l'espace.
Mais non.
En fait, qui a aidé à cacher les cendres dans l'ISS.
Mais c'était quoi le délire, en fait, rechercher...
Ah bah, il avait fait la demande, apparemment, qui a été refusée. Et l'un a dit, non, il faut vraiment que son dernier voyage se passe dans l'espace comme il l'aurait voulu.
D'accord, ok. Ouais, bah au moins, oui, bah ils en auraient sa mémoire.
Exactement.
Bon, en cendres, hein.
Il est dans l'espace pour l'éternité.
Ah bah, c'est bah une voilà. façon de vivre, et c'est vrai que ça arrive pas tous les jours.
Enfin, une façon de vivre, il est mort.
Bah oui, mais à l'époque qu'il a fait ça, c'est vrai que ça arrive pas tous les
non,
jours.
Non, c'était les cendres du défunt.
Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est assez particulier, original, ça sort complètement de l'ordinaire, mon cher Didier.
On part en Belgique, qu'a trouvé une équipe de nettoyage dans les égouts.
Un trésor.
Oui.
Alors peut-être de l'argent, magot, je sais pas.
Si exactement, des lingots d'or,
ah bon
100 000 euros juste avant Noël. Ah, des lingots d'or, mais on sait pas à qui ils appartiennent.
Ouais.
Une enquête est en cours, tu les as pas perdus.
Ah bah non, mais j'ai dit ça complètement au pif, le hasard, l'intuition.
C'est
le...
peut-être les miens parce que j'ai perdu deux ou trois lingots.
Il y a les miens aussi parce qu'on a partagé en fait les gains, donc.
C'est le braquage
voilà.
de l'alcool.
Ouais. Voilà.
Alors qu'est-ce qui
le casse du siècle.
Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On fait une enquête ou ça va à la ville
Non, mais on dit rien, on dit rien, on dit
rien. Non, c'est une enquête parce qu'en plus ils étaient dans les égouts.
Bah oui, ça y est.
On suppose que c'est des cambrioleurs qui, en tentant d'échapper peut-être la police, ont perdu 2-3 lingots.
Tout à fait. Eh ben, ça arrive pas tous les jours, c'est aussi original.
Sans armes ni violence.
Et voilà.
Voilà. Ah. Exactement. Le braquage le plus pacifiste, en fait.
Voilà.
On termine en revenant en France, dans la Manche. Cet habitant en avait 60 chez lui illégalement. De quoi s'agit-il?
Des armes?
Non, c'est plus petit.
Des
animaux. Pas des serpents ?
Oui, Philippe, c'est des animaux.
Des serpents ?
Des animaux.
Des araignées. Dans ce genre-là,
des
oui.
Araignées.
Des araignées.
Ah,
voilà.
Ouais.
Des araignées, des.
Tarentules.
Migales.
Des migales.
Des migales.
Ah bon ?
Des migales. Il les avait achetées sur Internet, mais il faut un certificat de capacité et une autorisation préfectorale d'ouverture d'un établissement pour posséder les migales, qu'il avait évidemment pas. Il les achetait, je crois, plutôt en Allemagne ou en Pologne.
Oui, parce qu'effectivement, Didier, et ça, faut savoir, malheureusement, qu'à chaque fois on voyage, il y a toujours un trafic des animaux. On
non, mais
on voyage
en même temps,
illégalement.
Je comprends pas, non, mais je comprends pas non plus pourquoi les gens achètent des animaux sauvages.
Ouais,
enfin,
bah,
genre
ouais.
des tigres, des alligators, des serpents, des
chacun
migales.
Son truc.
Ouais, chacun son truc, mais bon, c'est pas. Enfin. Enfin, c'est mon avis, mais c'est pas tellement adapté, quoi.
Non, mais déjà, il y a...
C'est un collectionneur.
Y a un trafic.
C'est un collectionneur, voilà, mais
ouais, et maintenant, les fausses, maintenant, c'est interdit. Même dans les cirques, on peut plus en avoir. Hein. C'est une nouvelle règle. Faut respecter et connaître, surtout, quoi.
Vous êtes toujours dans Big Bang
Station
pour cette émission sur les élections présidentielles américaines bien différentes des françaises. Comment se passe une élection présidentielle aux États-Unis? Les grandes étapes par Petit Manu.
Eh ben, je vous dis tout de suite, ça va être un grand dossier. Croyez-moi.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président... américain, monsieur Barack Obama, Donald Trump, il arrive,
Bitton,
David Bouillet, Joe Cocker, Justin Timberlake, Lady Dada, Sakina, oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les cravottes, non.
Tous les quoi?
Alors les amis, toute personne confondue, il y a beaucoup de choses à dire malgré tout ce qui s'est passé aux États-Unis en convie. Je vais vous faire mon grand résumé ce qu'il faut savoir. La guerre d'indépendance des États-Unis opposa les 13 colonies d'Amérique du Nord au royaume de Grande-Bretagne de 1777 à 1783. Le traité de Paris, ça a été traité en 1783, reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique qui avait été déclarée le 4 juillet 1776. Comment bah, se passent les élections aux États-Unis, je vais vous expliquer. Alors, ça commence les 12 États, il est financé par le parti politique, les causes qui désignent des délégués et les candidats, les primaires organisées dans une quarantaine d'États, comme c'est très grand, des scrutins à bulletins financés par l'argent public et l'État. Elle désigne aussi les délégués au niveau des conventions nationales, celles des deux partis majeurs démocratiques et républicaines, qui désignent le ticket président, le vice-président.
Le vice-président.
Voilà, tout à fait, merci mon cher.
Le vice.
Ah là là, redis pour faire plaisir.
Vice-président.
Ah voilà.
Il a une demi-main quand je dis ça.
Voilà, non, mais ça a le plaisir, au moins il a le plaisir de s'exprimer. Enfin, c'est pas complètement fini, hein, les amis. Enfin, les électeurs votent pour deux personnes, le président et le vice. Vas-y.
Voilà, il le dit bien. Vice-président.
Il dit beaucoup mieux que moi. Oh là là, quel talent qu'il a. Mais comme les États-Unis sont une fédération, ce sont les États qui élisent un véritable. Le ticket. Vas-y, le ticket, mon cher Laure.
Ticket.
Voilà, ticket. Oh. Oh là là, qu'il lui dit bien. Ouh, ça me fait tout drôle.
Il est en train de border.
Mais non, mais pas du tout, mais j'essaie de mettre de l'ambiance.
Ça commence bien, c'est dommage.
Il est beaucoup mieux que moi. Alors là, j'ai pas de grand talent. Je suis tout
c'est dommage, exactement, Philippe, ça commençait si bien.
Non, non, j'ai fait participer. Il y a les grands électeurs. Mais même avec moins de 50% des voix des électeurs. Hein, vas-y, hein.
Ticket.
Oh là là, il dit super bien. Oh là là, ça fait de drôle. Pour déclarer 100% des grands électeurs. Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue des grands électeurs, soit 270 voix sur 538. Eh oui, il faut savoir.
Merci petit Manu. Voilà. Si Donald Trump ne restera pas au pouvoir, le Trumpisme, lui, survivra. C'est la chronique politique de Ronan.
Je disais, c'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est la chronique politique de Ronan.
Au revoir.
Eh oui, ah, le Trumpisme, voilà un nouveau sujet politique. Comme on a pu le voir le jour du vote pour la validation des élections, le 6 janvier au Congrès, les électeurs qui ont voté pour Donald Trump ne sont pas encore résignés. Ils sont même pas très contents. Et oui, capables d'envahir le lieu le plus prestigieux de la démocratie américaine, on rappelle que le Capitole est construit sur la colline de Washington et que pas une tour, rien, pas même la Maison Blanche, ne peut dépasser le Capitole car rien n'est au-dessus de la volonté du peuple. Eh bien, ce bâtiment symbolique a été envahi par ses supporters donc de Donald Trump. Est-ce que Trump sera accusé politiquement, on parle même de destitution, enfin bref, il y aura des conséquences à ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que malgré la défaite, malgré la perte du soutien de son vice president, comme dirait Petit Manu.
Ticket, dis-le.
Ah oui, parce qu'avec Mike Pence et Donald Trump, it's for the ticket. Yeah.
His vice president.
Vice president Mike Pence. Et Donald Trump et ses supporters continuent d'y croire jusqu'au bout. Alors revenons un peu en arrière, le 4 novembre 2020, lors de ces fameuses élections présidentielles. Il faut bien comprendre que cette 59e élection pour élire le 47e président Joe Biden fut incroyable à plus d'un titre. Bon, je vous garde bien de mes commentaires sur le suspense, le nombre de jours qu'il a fallu attendre pour avoir le résultat, mais il faut retenir un enseignement pour cette élection, c'est la hausse spectaculaire de la participation avec plus de 158 millions de votants, 20 millions de plus qu'en 2016. Et donc on peut déjà noter la hausse du nombre d'électeurs pour Donald Trump qui est passé de 62 millions à 74 millions d'électeurs, c'est-à-dire 12 millions de plus de personnes qui se sont déplacées ou ont envoyé leur bulletin pour le désigner comme président. Mmh. Ouais, voilà, sans commentaire.
Voilà, no comment. Next.
Ce qui veut dire que le perdant Donald Trump dans n'importe quelle autre élection l'aurait emporté. Mais alors qu'est-ce que le Trumpisme ? Peut-on en donner une définition ? Pour le professeur de civilisation américaine François Vergniaud de Chantal sur le site The Conversation, le Trumpisme est d'abord un style, un refus des intermédiaires, des compromis, une rhétorique très simple et directe, un refus des idéologies et leur sophistication, un enthousiasme pour le leader. Mais ce n'est pas seulement un style, c'est aussi un contenu. Selon le professeur, ce courant s'appuie sur le paléoconservatisme des années 90, une sorte de refoulé du conservatisme fait de nationalisme, de fierté blanche et de recherche de bouc émissaire. Trump a rendu ce discours qui était hier caché, aujourd'hui mainstream, ça veut dire dans le courant. Je fais des trades hein, pour PA qui m'écoute. On peut également parler des conservateurs qui remettent en cause les politiques fiscales sous Ronald Reagan, ou quand dans les années 2000, les militants du Tea Party se sont mobilisés contre les politiques sociales de l'administration
Obama. Pour une fois,
de quoi ?
Redis-le voir pour le Tea Party.
Le Tea Party.
Tea Party. Oh.
Je sais pas si ça se dit comme ça en plus. En somme, c'est un courant qui va de l'aile droite du parti conservateur jusqu'à l'extrême droite, avec certains aspects de la démocratie illibérale, donc en opposition avec la démocratie libérale, avec la remise en cause d'acquis de la démocratie comme une presse libre, ouais. Lui qui passe ses discours à les désigner comme des fake news, ou quand les républicains ont tenté de bloquer la loi donnant le droit aux électeurs américains de voter par correspondance pendant l'épidémie de coronavirus. C'est quand même un truc de fou. Ils ont essayé d'empêcher une loi pour des gens puissent voter. Enfin, moi, ça me paraît complètement délire.
C'est complètement dérisoire, en fait.
C'est fou. Autour de ça, il faut rajouter, parce que ça me fait plaisir d'en parler, il faut rajouter les mouvements d'extrême droite qui sont supporters du président américain blond. On peut citer les Proud Boys, une milice paramilitaire d'extrême droite, ou encore cette drôle d'organisation qui porte le nom de QAnon, dont vous avez sûrement entendu parler, qui regroupe des conspirationnistes selon lesquels il y a une guerre secrète entre Donald Trump, qui est parfois désigné comme un chevalier.
Il y avait un documentaire il y a quelques mois là-dessus, justement, sur les QAnon.
Ouais, il y en a eu plusieurs.
Enfin, il y en a plusieurs. plusieurs, mais il y en avait un qui était diffusé, je crois que c'était sur je crois que c'était sur W9 ou TMC, je crois.
Ah, c'est possible. Il y en a plein.
Mais il y en a plein, ouais.
Et Donald Trump qui est parfois désigné par les QAnon comme un chevalier face aux élites du gouvernement, les médias ou les milieux financiers, et Donald Trump, ces médias, ces milieux financiers, Fox News,
c'est sa chaîne favorite en fait.
Ces milieux financiers, ils forment des réseaux pédophiles et satanistes. Franchement, je pourrais faire un papier juste sur QAnon, tellement cette mouvance est complètement dingue. Voilà, parce qu'il paraît que les riches, les puissants font des sacrifices d'enfants pour essayer de leur prendre une drogue que tu produis, mais vraiment pour l'incinérer. Enfin bref, c'est complètement ouf. Je dis cela pour souligner l'importance qu'a pris le Trumpisme aux États-Unis, même partout dans le monde. Si on peut voir cela avec Boris Johnson, Jair Bolsonaro, etc. Voilà, on pourrait même parler de l'inspiration de Vladimir Poutine, puisque la Russie a un intérêt dessus. Sur ce, moi je vous dis que 2021, décidément, commence vraiment aussi bien que 2020 a terminé, et que parfois la politique, c'est comme une maladie, ça fait un peu peur quand même. Donc bon courage à vous, vous pouvez voler dans ce monde de fous.
Ben merci Ronan, et c'est l'heure de partir en musique avec le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Là, je vais me porter sur un truc.
Mais
qui dit président dit cérémonie d'investiture. Je vous propose donc un florilège des artistes qui sont venus chanter lors des investitures présidentielles. À vous de deviner pour quel président il s'agissait. On commence par un que vous connaissez tous.
Michael Jackson.
Absolument, Michael Jackson. Et c'était pour l'investiture de quel président?
Clinton.
Oui, gagné. PA.
Celle de 96.
Non, 93.
93. En plus, c'était le jour de ma naissance, le 20 janvier 93.
Bah, j'avais un mois.
Voilà, 20 janvier en plus.
20 janvier 93. Je suis né le jour où Clinton avait démarré son investiture.
Et le 20 janvier, ça sera
De Biden, enfin Biden qui va démarrer son investiture, ouais.
Exactement.
C'est les 20 janvier, mais tous les 4-5 ans, quoi.
Et oui, en effet, Michael Jackson, qui fut l'un des artistes invités lors de l'investiture de Bill Clinton en janvier 93, c'était avant le début de son mandat. Ouais. Il a été élu en novembre 92, ouais. Bill Clinton. Et Michael Jackson était venu interpréter le titre Heal the World, qui signifie...
Vive le monde.
Soigner le monde.
Soigner le monde. Heal the world.
On poursuit avec une chanteuse. Elle porte le même nom que le père fondateur des États-Unis, Benjamin Franklin.
C'est Aretha Franklin.
Aretha Franklin. Et pour l'investiture de qui, selon vous?
Obama.
Oui, PA, tout à fait.
Le doublé.
Ouais, mais celui qui a préparé le questionnaire sur les présidents, si je suis sûr qu'il a révisé.
Mais,
quoi.
À votre avis, pendant son premier ou son second mandat?
Son premier.
Oui, son premier.
En 2009.
2009, absolument, le 20 janvier 2009. Voilà. Et oui, une date à laquelle Barack Obama se souviendra sans doute jusqu'à sa mort. Aretha Franklin, qui était l'une des invitées de l'investiture du premier président noir des États-Unis, elle était venue chanter la chanson « My country, tis of thee », qui signifie « Mon pays est de toi ». Une chanson patriotique américaine écrite par Samuel Francis Smith.
Et je sais pas si vous vous souvenez aussi de l'émotion de Chloé Morteau qui était à l'époque Miss France 2009.
Oui, exactement.
Qui était hyper émue à Washington quand Barack Obama avait démarré sa première investiture.
Moi je me souviens de la bannière de Quotidien, enfin petit journal à l'époque, qui avait une bannière avec marqué Cassoulet dessus. Cassoulet. Et c'était passé à la télévision américaine, t'avais des gens sur la tête qui demandaient ce que ça voulait dire.
Cassoulet, ouais.
Je me souviens plus de ça. Ça c'était trop bien.
Et pour la petite histoire, Aretha Franklin nous a quitté le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans. On poursuit avec un groupe.
U2.
Oui, tout à fait. U2 pour l'investiture de qui?
Clinton.
Non.
Reagan.
Non.
Bush.
Non plus.
Bush père.
Mais le précédent, Obama.
Ah, Obama encore. Aussi.
Ah, oui, lors de son investiture Vertigo. En 2009.
C'est Vertigo, ça?
Non, c'est Pride.
Pride.
Ouais. Pride in the name of love.
The name of love, ouais.
Je vous propose de l'écouter. One man washed up on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Et on termine avec l'une des plus grandes chanteuses des États-Unis.
Whitney Houston.
Alors,
Whitney,
c'est l'épouse de Jay-Z.
Ah, Beyoncé.
Beyoncé, absolument. Dans cette chanson Star Spangled de Banner, qui est l'hymne des États-Unis. C'était pour quelle investiture ?
La seconde d'Obama.
Tout à fait,
voilà,
PA.
Tout simplement. C'était logique.
Le 21 janvier 2013,
voilà.
Oui, elle était venue chanter l'hymne national américain. Sa prestation a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements et des remerciements de la part de Michelle Obama, qui est
La femme de Barack Obama, tout simplement.
Aussi l'ex-première dame des États-Unis.
L'ex-première dame des USA, oui.
Alors, qui est le grand gagnant d'après vous parmi les investitures ?
Le grand gagnant ?
Oui.
Le grand gagnant de la meilleure musique ?
Non, dans le quiz musical que j'ai proposé.
Ah.
C'est Barack Obama.
C'est Barack Obama,
oui,
tout simplement.
Et oui, sachez qu'en janvier 2017, aucun artiste n'avait voulu venir chanter pour l'investiture de Donald
Trump. C'est vrai, ouais.
Il y avait des gens qui avaient annulé leur invitation, hein, comme Céline Dion, Elton John, Andrea Bocelli, et même
Justin
Timberlake.
Normal en même temps, normal.
Car je vous rappelle qu'à l'époque, la favorite, c'était Hillary Clinton.
Ouais. C'est vrai.
Je tiens à dire que pour Aretha Franklin, t'as rien dit. Et pour Beyoncé, t'as dit une des plus grandes chanteuses de tous les temps de l'histoire des États-Unis. Moi, j'aurais mis l'inverse.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, voilà.
J'ai failli l'ouvrir. On a rien contre Beyoncé, mais c'est vrai que l'inverse aurait été mieux.
Oui, c'est vrai. Aretha Franklin, déjà paix à son âme. Hein.
Ouais, il a dit qu'elle était morte à 76 ans.
Bon.
Qu'est-ce qu'il a paix à son âme ?
De quoi ?
Paix à son âme, il me dit.
Paix à son
non,
âme.
Non, la vanne. Non, Aretha Franklin, paix à son âme.
On a de l'humour, ouais, Philippe. On a beaucoup d'humour. Hein.
Et donc, on verra si Joe Biden héritera de quelques artistes malgré la situation sanitaire.
Oui. Moi, je pense que oui, ouais. Moi aussi.
Sur ce, vive l'Amérique. Merci à tous.
Merci, Kevin.
Merci.
Et on continue en musique avec Beyoncé.
Star Spangled de Banner. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Star Spangled Banner, la chanson qui est venue interpréter lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama en janvier 2013.
Et c'est l'heure de la chronique sortie d'Élodie.
Et ma chronique portera sur les manifestations et les heurts qui se passent aux Amériques en ce moment. Alors, ce qui se passe actuellement là-bas est sans pareil et historique. Après, le mandat de Trump aussi est assez singulier, de grosses embrouilles avec la Corée du Nord, des embrouilles en politique intérieure avec le système assurance santé établi par Barack Obama. En même temps, à côté de cela, il y a eu des points positifs hein, lors du mandat de Trump. Il faut dire que le bilan économique et financier de son mandat était plutôt positif, surtout du point de vue de l'électeur américain qui profite notamment d'un marché de l'emploi avec une hausse de salaire permise par les difficultés des entreprises américaines à recruter, et aussi une ardoise fiscale allégée par la réforme fiscale de Trump. Les attaques du Capitole depuis le 6 janvier sont motivées par une élection de Joe Biden qu'ils estiment douteuse. Ils penchent en l'honneur de Trump. Les chefs de file des manifestations se félicitent librement et ouvertement sur le réseau malgré la condamnation de l'attaque contre le Capitole. Ils disent, je cite, « Nous allons libérer Washington et libérer notre pays. Pas de pitié, nous ne laisserons pas les communistes gagner. » Certains d'entre eux voient l'attaque contre le Capitole une démonstration de force réussie et un moyen d'attirer de nouvelles recrues. La plupart refusent toujours d'accepter la victoire de Joe Biden et continuent de répéter que Donald Trump commencera son second mandat. Depuis le 6 janvier, les manifestations se multiplient. D'ailleurs, les pro-Trump prennent rendez-vous pour le 20 janvier. Ils disent, je cite, « Nous serons de retour le 20 et rien ne nous arrêtera, ni la police, ni l'armée. » Sur les réseaux d'extrême droite et de partisans de Donald Trump, les appels à manifester continuent de se multiplier. On a un appel à manifester aussi pour le dimanche 17 janvier dans la capitale fédérale Washington, mais également devant les capitaux de différents États, selon un site proche du mouvement Boogaloo. Alors, le mouvement Boogaloo, c'est un mouvement qui d'extrême droite, dont les membres sont reconnaissables grâce à leur chemise hawaïenne, dont les militants se préparent pourtant activement à une nouvelle guerre de sécession. Ils disent, je cite, « Ces manifestations resteraient pacifiques et il n'y a pas de nouveau plan de marché sur le Capitole. » À côté de cela, Washington se prépare à des jours tendus jusqu'à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier. C'est pour cela qu'à cette approche, les observateurs des mouvements radicaux américains appellent à la vigilance. L'ancien directeur adjoint du FBI, Frank Figliuzzi, estime que les groupes d'extrême droite se sentent invincibles après avoir réussi à pénétrer dans le Capitole. Certains d'entre eux appellent même à revenir armés. Et lui, Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Après la certitude que Joe Biden est président et que sa présidence touche à sa fin, il a promis une transition ordonnée. Il précise dans un communiqué, même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier. Et par-dessus tout cela, le gouvernement américain lance un deuxième impeachment contre Donald Trump pour empêcher une candidature pour 2024. Il est aussi privé de réseaux sociaux. Trump a fait parler de lui jusqu'au bout. Et pas en bien, d'ailleurs, il est étonnant qu'il y ait des partisans prêts à mettre à feu et à sang pour lui. Après, les bouleversements qu'il y a aux Amériques sont nombreux et profonds et ne prennent pas uniquement sur les élections. Ça, c'est indéniable. Les révolutions d'un pays à un autre sont séculaires et inévitables.
Merci Elodie. Joe Biden est le 46e président des États-Unis.
Et aussi le plus âgé.
Mais connaissez-vous justement d'autres présidents américains? PA nous propose un petit quiz.
Ce soir donc, je vais rendre hommage à un immense artiste, le cofondateur d'un célèbre groupe hyper connu, mondialement connu.
C'est l'heure des coups de cœur de PA. Alors petit Manu m'a dit, mais c'est pas ça, les musclés.
Non, c'est Didier qui dit ça.
Eh bah oui, le 20 janvier prochain, dans quelques jours, ça y est, ça approche à grands pas, un nouveau président des États-Unis, le 46e, Joe Biden. Mais pour tester votre culture générale, eh bien je vous propose un petit quiz sur l'histoire des présidents des États-Unis, donc les prédécesseurs évidemment. On va commencer une première, donc qui est plus ou moins facile. Alors, première question, qui a été le premier président des États-Unis? Le tout premier.
Petit Manu, il sait. On va lui laisser le micro.
Il est content, Manu, hein?
Ah,
il est content.
À certains, George, ou vas-y, on le dit ensemble.
George Washington.
Exactement, George Washington.
Voilà.
Je repars.
Ok, c'était facile. Tout pour moi, au revoir.
Quiz très facile.
Très facile, voilà. Bah, effectivement, voilà, c'était George Washington le tout premier. Le plus âgé, selon vous?
Joe Biden.
Voilà, bah, Joe Biden, effectivement, donc 77 ans.
Et juste avant, après, c'était
Ronald Reagan.
Non. Juste avant.
Donald Trump.
Voilà, exactement.
Il avait 70 ans.
70 ans.
Ah, oui, c'est vrai.
Voilà.
T'as pas le plus jeune?
Le plus jeune, bah, je crois que c'est...
C'est pas Kennedy, non?
Oui, c'était Kennedy, ouais, qui était plus jeune, ouais.
Mais alors, du coup, comme on est le 16 janvier sur l'IFM et plus tard sur les autres radios, finalement, c'est encore Donald Trump qui est le plus vieux président.
Pour le moment, c'est encore Donald Trump. Ouais. Mais celui qui sera après le plus vieux officiellement, ce sera Joe Biden.
Le plus gros.
Et le plus gros aussi, voilà.
Alors, voilà. Petit aparté. J'espère qu'entre l'enregistrement de l'émission et la diffusion,
oui, alors,
il y a pas quelqu'un qui meurt ou
non. Alors,
on change pas toute l'émission.
Ne parlez pas de malheur, s'il vous plaît. Ne parlez pas de malheur. C'est déjà assez dur comme ça. Ensuite, question suivante. Quel a été le premier job de Ronald Reagan? Le tout
acteur.
Alors, il a été acteur, mais avant, il avait fait quoi?
Livreur de pizza.
Non.
Commercial.
Non.
Caissier.
De journaux, non?
Non. Non.
Figurant.
Non.
Acteur de films érotiques.
Il a été acteur, mais avant ça, il a fait quoi?
Il a travaillé dans un fast-food.
Non plus.
C'est un métier.
Est-ce qu'il a travaillé dans un magasin?
Alors c'est un métier où t'es connu, mais c'est surtout ta voix qui est connue.
Un chanteur.
Doubleur.
Non.
voix off.
Non,
la radio.
À la radio. Oui, animateur radio, effectivement. Il a été animateur radio sur la radio WOC pour commenter des rencontres sportives. Donc c'était son premier job. Et donc il gagnait à peu près $100 par mois. Voilà, donc c'était son premier job avant de devenir acteur. Et puis après devenir président des États-Unis dans les années 80.
J'aimerais bien gagner $100 par mois à la radio, moi.
Ah ouais. Didier, tu m'aimes plein. Aussi, hein. Ensuite, quel président a été élu pour 4 mandats? Le seul d'ailleurs.
Roosevelt.
George Bush.
Non. Roosevelt. Oui, c'est Ronan qui a dit la bonne réponse. Roosevelt. Ah. Franklin Delano Roosevelt. Et comme dirait Petit Manu, c'est aussi une station de métro.
Non. Comme dirait Petit Manu, c'est une station
de métro. C'est une station de métro.
Delano, c'est une station de métro.
Alors c'est vrai, mais. Non, c'est parce qu'en fait, une fois, je sais plus, on parlait de quoi, on avait dit Franklin Roosevelt, on lui avait demandé c'était qui, et il nous avait répondu c'était une station de métro. Mais avant d'être une station de métro, c'était quelqu'un quand même,
Petit
évidemment,
Manu. Président, bon, je redonne la parole, et c'est, ça se trouve dans le 16e, évidemment, pour savoir. Tu reprends pas. À tout à l'heure.
La station de métro, bien sûr.
Voilà. On te retrouve là-bas. Hein. Allez, vas-y, va, on va te rejoindre. Voilà, donc Franklin Delano Roosevelt, donc, qui a été le premier président à être élu pour 4 mandats, donc le dernier aussi, du coup, qui a d'ailleurs, son dernier mandat d'ailleurs, qui a été inachevé, donc du fait de son décès, et le seul et 22e amendement constitutionnel qui, en 1951, interdit depuis au président de briguer un troisième mandat. Voilà. Et comme dirait Petit Manu, fallait savoir. Ensuite, question. Bon, alors là, c'est un peu plus facile parce qu'on a donné la réponse du coup tout à l'heure. Quel président a succédé à George Bush, le père?
Bill Clinton.
Oui, voilà. Oui, ah, oui. C'était facile. Donc c'était Clinton, effectivement.
Il avait 46 ans.
Ouais, donc c'était en 93, donc le 20 janvier 93. Le jour de ma naissance, donc ça c'est une petite anecdote. Et
on va le savoir. Hein.
Voilà, on va le savoir. Voilà, on va le savoir aussi.
Et comme dirait Petit Manu, alors sachez-le.
Sachez-le, faut le savoir. Et voilà, donc qui a été élu en 93, qui a été réélu ensuite Clinton une deuxième fois en 96, donc qui a brigué 2 mandats au total jusqu'en 2001. Et donc voilà, et sachant qu'en plus on retiendra de ces 2 mandats, bah, le Monica Gate.
Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky, effectivement, le scandale Monica Lewinsky.
Des très beaux bureaux d'ailleurs.
Effectivement. Oh, toi, tu connais bien. Il y a du vécu, là. Il y a du dos. Toi, t'étais là, toi, ce jour-là, quand... hein.
Ouais, j'aurais aimé. Ouais,
petit coquin. Ensuite, quel est le seul président à avoir démissionné?
Ronald Reagan.
Non.
Nixon, pardon.
Alors, c'est pas... Enfin, le prénom, tu t'es trompé.
C'est Richard.
Richard Nixon, effectivement, qui a démissionné après le scandale du Watergate, qui fut une affaire d'espionnage politique. Et à votre avis, qui l'a succédé juste après? Alors, je vais vous dire un indice. Son nom de famille, ça porte une
Carter.
Marque de... Non, ça porte... C'est le nom. C'est comme le nom d'une marque de voiture.
Ah, Ford.
Voilà, Gerald Ford, effectivement. Donc, qui avait été à l'époque son vice-président.
Renault.
Renault.
Gérard Renault.
Citroën. Donc, c'était effectivement Gerald Ford, donc, qui l'avait succédé, qui était aussi son vice-président, donc, à la place de Spiro Agnew. Et donc c'était Gerald Ford effectivement qui avait succédé à Richard Nixon. Ensuite, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Donc là on va tester votre culture générale. 4 présidents ont été assassinés. J'aimerais bien que vous m'en citez 2 ou 1 maximum, enfin pour voir.
Kennedy et Lincoln.
Alors Kennedy et Lincoln, donc 2 Ronan.
Et après
Alors il y en a d'autres. 2 autres.
Ouais c'est vieux.
Roosevelt, non?
Non.
Des fin 20, fin, de, fin 19e.
Alors il y en a un. Il porte le nom d'un célèbre chat de bande dessinée.
Garfield.
Ouais, voilà. Et le dernier, alors le dernier, c'est un peu plus compliqué, je vais vous le dire, c'était William McKinley. Donc effectivement, donc Ronan t'a dit, donc Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, effectivement, bon, ça c'est l'assassinat le plus connu, c'était le 22 novembre 1963. C'était où?
À Dallas.
Voilà, dans sa voiture, donc tiré par un sniper. James A. Garfield et William McKinley. Donc voilà, donc c'était les 4 présidents américains assassinés. Et puis enfin, on va finir avec une dernière question, là aussi un peu plus facile, donc histoire de bien finir ce quiz. Dans quelle émission de télé-réalité Donald Trump a-t-il participé dans les années 2000?
The Office.
Non. C'est une série, ça, The Office.
Ah, The Apprentice.
Voilà, The Apprentice, effectivement. L'émission de télé-réalité qui est apparue en 2004. Donald Trump, d'ailleurs, qui fut au casting de la première saison et qui a été rendu célèbre, tu l'as dit tout à l'heure, Ronan, par son fameux...
You're fired.
You're fired. Oui.
J'aimerais juste vous demander qui est, selon vous, le président américain le plus sportif?
Bah, Obama.
Oui, tout simplement.
Toi, t'es en love sur Obama, toi. Oh. Passion Obama.
Il y a des préférences, quand même.
Il y a des préférences.
Alors ouais. Moi j'en ai une dernière, il y a un seul et unique homme à être président élu deux fois, ouais. Mais pas avec deux mandats consécutifs. Il a été président, puis plus président, puis président de nouveau.
Vladimir Poutine.
Non, on est aux États-Unis.
Il a été à la fois 22e et 24e président.
Ah, donc c'est-à-dire à.
Si vous regardez des dessins animés style American Dad ou Family Guy, non, le nom vous dira quelque chose. Il y a eu American Dad, Family Guy, vous regardez pas ?
Personne regarde. Si, des fois ça m'est arrivé, si, des fois je regarde.
Et il y en a eu un troisième dessin animé qui s'appelle Cleveland.
Voilà.
Et du coup, c'est
Cleveland.
Grover Cleveland.
Voilà, tout à fait.
Grover
voilà.
Cleveland.
Le seul président à être élu pour deux mandats non consécutifs, 22e et 24e président.
Qu'il faut savoir.
Et il faut le savoir, sachez-le.
Exactement.
Tout à fait.
Eh ben merci, Béa.
C'était tout, voilà.
Et je peux dire quelque chose, Didier, c'est extraordinaire. Parce qu'on avait le même quiz, mais on l'a présenté. Il l'a présenté d'une façon complètement différente par rapport à ce que
c'est
j'avais.
C'est-à-dire bien.
Voilà.
En fait, Manu, ça s'appelle le talent.
Oui, tout voilà. À fait.
Tout simplement. Sans enfin, vouloir me vanter.
Ce qu'il faut savoir, les auditeurs, on avait une présentation complètement différente qui a donné le charme, le succès, le talent, comme tu dis très bien, Péa, à ton super.
Et c'est ce que dit petit Manu quand je lui ai réécrit sa chronique. Version Didier, version Manu.
Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais vous tenir au courant comment ça se passe. On fait notre petite confiture ensemble.
Eh ben, c'est l'heure des anniversaires du jour. Valy, fleur de métal de Christian Mallory, 66 ans, de Guy Chambron, 80 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire. Alors ça, c'est la Saint-Marcel aujourd'hui. Il y a beaucoup de Marcel. Et je sais pas si pour moi...
Marcel fait chauffer le camion.
Moi, je suis à la fois aussi comédien. Et à l'époque, on m'avait
ah bon
parti... Tout à fait.
Ah, je savais pas.
Bah, je l'apprends. Heureux, cher ami. Et ben moi, j'avais participé au festival du film. Il y avait beaucoup de comédiens. C'était avec les grands professionnels. Et j'avais fait la partie de cartes. On avait été filmé de Marcel Pagnol, justement, avec Panis. J'avais le rôle de Panis, quoi. Donc c'était mais il y a tous les professionnels.
Panini ou...
Non, de Panis. Tu me coupes à cœur, justement, à Marseille, justement, on en parlait.
Marcel voilà. Pagnol ou...
De Marcel Pagnol, tout à fait. Ah, puis il y a Marcel Desailly, puis d'autres Marcel aussi.
D'accord. Et toi, c'était plutôt Marcel Bagnol, non, du coup.
Voilà. Et aussi, il y a une chanson de Jean-Louis Aubert qui parle de Marcel aussi. Une de ses chansons ouais. Aussi, une très belle chanson.
Et moi, je connais quoi. Marcel de C'est pas sorcier. Marcel fait chauffer le camion. Marcel.
Ah voilà. Ah bon, PA qui a sur la pêche faut dire. Et en tout cas, ouais. Tous les Marcel. Il y a aussi la station Saint-Marcel dans
ah,
le
hein. Ah, il est très station de métro, lui.
Non, mais j'en tiens compte. Ça vient à l'esprit, ça vient à l'esprit, on sait jamais. Faut en tenir compte.
Tu sais, sur la ligne 12, tu vois, t'as ouais. Tous les...
Par contre, je peux dire quelque chose, Didier. Faut bien consoler notre cher ami Roland, parce que la semaine dernière...
Ah, Roland.
Tu veux me dire pourquoi la semaine dernière...
Non, mais je sais pourquoi.
Non.
Parce que tu l'appelles toujours Roland au lieu de Ronan.
Voilà, c'est ça. Et je veux dire pourquoi, parce que la semaine dernière, on a vu notre cher ami Corentin, je me suis tout de suite souvenu. Et notre cher ami Roland, il était un peu vexé, je me suis souvenu.
Donc, j'ai rien compris.
Non, la semaine dernière...
Parce que, en gros, Corentin, ouais. Il se pointe, il est vachement gentil, hein, j'ai rien compris. Corentin,
voilà.
Si tu nous écoutes d'ailleurs,
ah,
on te salue.
Bonjour.
Mais il arrive une demi-heure après, petit Manu. Hey, Corentin, voilà. Comment ça va? Moi, ça fait 6 mois que je suis là. Roland, il n'y arrive pas.
Donc,
quoi.
C'est pour ça qu'il se sent un peu vexé. Faut que tu le reconsoles. Tu dis
alors, je vais le reconsoler. Voilà. En fait, il aurait pu t'appeler aussi François.
Ah non, donc, non, quoi. Ça va
ou Gilbert ou Francis,
non,
tu vois.
Ça va mieux. Tu te sens mieux. Ah, voilà.
Bon, il y a déjà deux lettres de pas mal.
Est-ce que ça va mieux? Tu te sens mieux maintenant?
Oui, je me sens mieux.
Ah, bon, voilà, c'est le principe.
T'inquiète, il s'en est remis depuis. T'en fais pas. Il va très bien.
Tu dis recours.
Il a un suivi psychologique, t'en fais pas, toi très bien.
Il a retrouvé le sourire, voilà.
Et demain, si vous nous écoutez sur
Princess Radio,
Les Muses de Paris ou Radio MS, c'est l'anniversaire de Jennifer Dufos, 34 ans, Martine Bourg, 71 ans, Jérôme Marie Trébor, Liliana, 68 ans, Odile Messé-Son, 77 ans,
mais
Kérine,
c'est de la merde, pardon.
Excusez-moi. Demine, 33 ans. Et Taoufik, 20 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Joyeux anniversaire.
Et tu peux être très fier de ton quiz quand même. Tu t'es très bien débrouillé.
Oui,
quand même.
Merci.
Après, faut que tu sois fier de toi quand même.
Bah, t'inquiète pas, moi, c'est fait depuis longtemps.
Ah, c'est le principal.
Ça d'accord. Vous dit de soigner le monde?
Ah, bah pourquoi pas. Ah, bah, je crois qu'on
y a avec Michael Jackson.
Tout à fait.
Si on peut déjà sonner l'émission, ce sera déjà pas mal.
Mais oui.
Ça sera déjà bien. Thank you.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Thank you.
C'était His World de Michael Jackson.
Et c'est l'heure de parler cinéma avec Roland.
Hein, Roland.
Tu me le retires.
Un petit ciné.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Ronan squatte les salles obscures pour vous.
Y'a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah bah ça va alors.
Ah, les élections, c'est un bon sujet de cinéma. Il y a pas mal de films, évidemment, sur la politique américaine. Si on peut évidemment citer la superbe série produite par Netflix de David Fincher, House of Cards, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, dans laquelle Kevin Spacey, un de mes acteurs préférés depuis American Beauty, avant ses affaires sexuelles, dans laquelle il campe le coordinateur du Parti démocrate au Congrès américain, prêt à tout pour s'emparer du pouvoir. Si vous voulez voir une production audiovisuelle réaliste, quoique peut-être un peu trop dramatique sur le sujet, précipitez. Vous, si vous ne l'avez pas encore vu, on pourrait parler d'un des films préférés de mon père, JFK, sur l'assassinat de John Kennedy, d'Oliver Stone, ou encore de l'excellente réalisation, quoique un peu romancée et un peu longue, Lincoln, qui nous raconte l'histoire du mandat d'Abraham Lincoln, notamment pendant la guerre de sécession et de l'adoption de la loi qui institue l'abolition de l'esclavage. Et on aurait aussi pu en parler, je ne l'ai pas noté donc je vais l'improviser, mais on aurait pu parler aussi de Maman, j'ai raté l'avion 2, dans laquelle apparaît un président américain.
Oui, que j'ai regardé il y a pas si longtemps que
oui,
ça.
Oui, qu'on a revu il y a pas Noël. Si longtemps que ça. Un voilà. Certain Donald Trump.
Un Donald Trump. Voilà, comme dirait Petit Manu, il faut le savoir. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un film un peu plus récent, puisqu'on m'a fait une critique que je choisissais que des vieux films un peu chiants. Donc, Les Marches du Pouvoir, sorti en 2011 et réalisé par l'acteur George Clooney. Quatrième film réalisé par ses soins, qui réunit les acteurs Ryan Gosling, George Clooney, et Philip Seymour Hoffman. Gros casting pour un film qui nous raconte l'histoire du directeur des médias du cabinet Maurice, qui brigue l'investiture des démocrates lors d'une primaire très serrée. Donc, ouais. Les primaires, maintenant, vous savez ce que c'est, puisque Petit Manu vous l'a expliqué. Alors qu'il est sûrement au sommet de sa carrière.
Et dans Forrest Gump, il y a pas mal de références à des hommes politiques ou au Watergate. Parce que tout à l'heure, tu sais, je parlais du Watergate dans mon quiz. Sûr. Dans Forrest Gump.
Oui, dans Forrest Gump, il rencontre même deux fois le président, puisqu'il reçoit deux fois la médaille d'honneur.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais, il y a pas mal de références à ça. Ouais.
C'est vrai, parce qu'il gagne pratiquement lui tout seul la guerre du Vietnam. C'est pas mal. Donc Stephen Meyers, interprété dans le rôle principal par Ryan Gosling, est tendu car son candidat qui refuse de négocier avec un autre candidat pour avoir ses délégués et gagner la primaire est dans une mauvaise posture. C'est alors que le camp d'en face va l'appeler pour proposer de l'embaucher. Va-t-il céder à la tentation ? Par-dessus cela se rajoute une histoire de mœurs qui va se tenir et rajouter du drame et de la trahison et de la passion politique à ce film. Alors que dire de ce film ? Doté d'une mise en scène sobre, classique, la tension du film est palpable, bonne. Ryan Gosling joue parfaitement son rôle de visage froid, tantôt jovial et séducteur, tantôt dangereusement brutal. On remarquera d'ailleurs que la structure du film, qui, je le rappelle, est sorti en 2011, a quelques similitudes avec un film qui est sorti dans le même temps qui était Drive. Je sais pas si c'est ça dont tu veux parler.
Non, il y en a un autre aussi que j'ai adoré.
Dis-moi.
Avec Harrison Ford. Où il joue un président, justement. Air Force One.
Ah oui, j'en avais regardé beaucoup pour ça. Vraiment, je voulais vraiment des films sur l'élection. Celui-là, je l'ai raté. C'est quoi ?
Air Force One,
c'est sur l'avion.
Ouais, en fait, c'est. En fait, voilà, il incarne le président des États-Unis et en fait, il y a une prise d'otage. Dans l'avion, voilà, enfin avec des terroristes et tout, et voilà.
Il déglingue tout le monde.
Voilà, il déglingue tout le monde à la fin, voilà. C'était une petite parenthèse.
D'accord, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Voilà.
Et du coup, moi je reparlais des films de 2011 parce que Ryan Gosling avait surtout été connu pour le film Drive, donc avec cette électro qui était faite par un Français. Et c'est marrant parce que la structure de Drive ressemble beaucoup à celle des Marches du Pouvoir parce que il est interprété par Ryan Gosling, donc il joue les héros mais un peu ténébreux, c'est-à-dire que tout d'un coup il passe de ça. Mais là où Drive nous sortait un drame autour d'une simple histoire de violence conjugale qui tournait au bain de sang, Les Marches du Pouvoir nous prennent un contexte très sérieux, celui des élections, pour nous sortir une affaire terrible de mœurs, je dis mœurs pour ne pas en dire plus, et de chantage qui finit en règlement de compte et nous montre comment la politique peut être vraiment horrible. Mais cela prend moyennement parce que je trouve que le contexte n'est pas forcément approprié à raconter cette histoire. Au final, si vous voulez regarder, vous allez passer un bon moment et vous dire ok, tout ça pour ça. Sur ce constat, on écoute la bande-annonce.
Vous avez la cote auprès des médias. Tous les journalistes vous adorent.
Si ton candidat gagne, tu as un job à la Maison Blanche. S'il perd, tu redeviens consultant.
Il est le seul capable de changer la vie des gens.
Vous êtes mes conseillers. Vous vous trompez de candidat. Je veux que vous travailliez pour nous.
Paul est mon ami.
Il n'y a qu'une seule chose qui compte en ce monde et c'est la loyauté. Sans la loyauté, on n'est rien.
Vous voulez bosser pour un ami ou pour le président ?
Aujourd'hui marque le commencement d'un combat entre deux idéaux.
Avec le soutien du sénateur Thompson, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il veut ?
Un ministère.
Je ne peux pas accepter. J'ai toujours refusé ce genre de chantage.
Paul, j'ai vu Tom Duffy hier.
Quoi ? croyez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait qui compte.
Voilà, c'était la bande-annonce du film réalisé par George Clooney, Les Marches du Pouvoir. Sur ce, je vous souhaite de voir de nombreux films politiques, comme la semaine dernière avec Brexit, et vive le cinéma et vive la politique.
Bah merci Ronan.
Merci Ronan.
1619 ou 1776, l'identité américaine en débat, c'est la chronique culture de Vincent. De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours.
Ah, c'est pas mal, quoi. Ah.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. Quel métier que celui de chroniqueur. Des mots, il n'est que l'humble assembleur. Et pourtant, il peut se retrouver équilibriste. Face au fatal péril de se révéler polémiste, un souci de recul historique sera la gageure d'une honnêteté nuancée car réaliste. Parler des États-Unis conduit au hors-piste. Nous le savons, la neutralité est un mensonge. Ce piège, j'espère l'avoir évité pour le passionnel Brexit. Alors continuons ce chemin de crête avec les États-Unis. Leur tourment identitaire ne sont pas nouveaux. Les blessures de la guerre de sécession se rouvrent sur fond de crise sociale et politique. Alors, peut-on encore parler de pays pour désigner nos troubles alliés ? Partons des origines. Qu'est-ce qu'une nation ? La question est posée par Ernest Renan dans sa conférence de la Sorbonne. Sa réponse ? Une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. Constitue cette âme, ce principe spirituel. L'un est dans le passé, l'autre dans le présent, l'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage que l'on a reçu. Chers auditeurs, constatons que les Américains ne partagent ni une vision commune de leur passé, ni une volonté de vivre ensemble. Deux idées irréductibles s'affrontent, le suprémacisme blanc et une idéologie pensant le racisme comme indépassable inscrit dans l'ADN national. Ces camps s'opposent sur les bases de l'identité américaine, les mythes fondateurs. Ils remontent aux premières colonies anglaises en Amérique à partir de 1607 et la fondation de Jamestown. Cette première colonie voit se dérouler l'histoire de Pocahontas, romancée par Disney, mais symbolisant en réalité l'acculturation des Amérindiens. En effet, elle est emprisonnée par les colons de Jamestown et forcée à adopter le mode de vie anglais. Elle épousera un colon anglais, un certain John Rolfe, et partira en Angleterre où Pocahontas est exposée à la cour comme une curiosité exotique. Pocahontas raconte cette minimisation des crimes colonialistes pour créer une légende nationale unificatrice. L'histoire se prolonge en 1619. John Rolfe est alors secrétaire de Jamestown et note l'arrivée d'une vingtaine d'esclaves noirs, première trace d'esclavage aux États-Unis. Cet événement est le sujet du projet 1619 du New York Times pour inscrire l'esclavage au cœur de l'histoire des États-Unis. Trump dénonce ce projet comme antipatriotique. Je ne m'attarderai pas plus sur le cas du futur ex-président. Les intellectuels ont donné des armes à ce réflexe chauvin. En effet, un article y affirme que l'une des motivations de l'indépendance était le souci des colons de conserver leurs esclaves. Leur révolte n'a pas de motivation raciale, mais fiscale, pour ensuite s'élargir à une protestation contre l'absence de représentation des colonies au Parlement, avec le slogan « No taxation without representation ». La guerre culturelle actuellement à l'œuvre oppose deux extrêmes, les chauvins négationnistes d'un côté et des racialistes peu scrupuleux de l'autre. Pourtant, une ancienne devise des États-Unis, et pluribus unum, symbolise l'exigence politique du moment. L'union par la diversité. Vivre ensemble et égaux, le rêve de Martin Luther King. Un jour, notre pays vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. Chers auditeurs, à très vite.
Merci Vincent, et on repart en musique.
Et je vous propose Aretha Franklin, My Country Tis of Sea.
Liberty of thee.
C'était Aretha Franklin, My Country, Tears of Swiss, chanson interprétée lors de la cérémonie d'investiture d'Obama en 2009.
Oh, et Big Bang, c'est déjà fini.
Oh oh,
mais on se retrouve la semaine prochaine, samedi.
Ah bah oui.
À 20h sur EDFM, l'émission est rediffusée le dimanche à 16h sur Precious Radio, à 20h sur les Muses de Paris, à 21h sur Radio MS, le lundi à 19h sur Fréquence Magique, à 22h sur Fréquence Zik, le mardi à 20h sur NJ Radio, à 21h sur Radio MS, le jeudi à 16h sur Radio Vintage, à 21h sur Fréquence Tempo, sur Radio Balagne et sur Gimme Radio, et bien sûr partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.fr.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Bye bye. Vive l'Amérique.
Okay, let's stop.